Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Moscou le samedi 7 octobre 2006, vers 16h. Anna Politkovskaya vient d'aller faire des courses au supermarché Ramstor. Elle n'a pas vu qu'on la suivait depuis plusieurs jours. Elle rentre chez elle avec son cabas à provisions. Elle habite en plein centre, au 8 de la rue Lesnaya. Et elle arrive dans le hall de son immeuble, elle appelle l'ascenseur, et là, surgit un homme qui attendait planqué. Il lève un pistolet Makarov, équipé d'un silencieux, et... il tire 4 fois. Anna s'écroule dans l'ascenseur. L'homme pose le pistolet sur le sol sans se presser. Et il sort. Mission accomplie. Une voisine découvre le corps 1 heure plus tard.
Anna Politkovskaya était journaliste. Elle avait couvert la guerre en Tchétchénie et dénoncé les atrocités menées par l'armée russe. Au passage, elle critiquait les méthodes de Vladimir Poutine. Elle a été retrouvée assassinée cet après-midi à Moscou, où elle habitait. Magali Forestier.
La journaliste russe a été abattue dans son ascenseur cet après-midi. À 48 ans, elle était l'une des très rares journalistes à couvrir encore la Tchétchénie sur le terrain.
La nouvelle de l'assassinat d'Anna Politkovskaya fait le tour du monde en quelques minutes. C'est que cette femme, qui vient de mourir dans cet ascenseur, c'était pas n'importe qui. Anna Politkovskaya, fille de diplomate, née à New York, était une journaliste rare, trop rare en Russie, qui enquêtait sur la corruption, et notamment en Tchétchénie, sur les juges, les policiers, les gouverneurs qui s'en mettent plein les poches, et aussi les crimes de guerre commis par l'armée russe.
C'est la seule, vraiment la seule journaliste qui n'arrêtait pas depuis le début de la guerre en Tchétchénie, parler de cette guerre, de l'armée russe, de leurs crimes, de crimes de Poutine et de gouvernement de Poutine et de la situation en Russie, qui ne pouvait pas accepter cet assassinat et cette silence qui est après sa mort. Ça montre vraiment qu'aujourd'hui, le Kremlin et la politique en Russie n'a plus aucune limite.
Anna Politkovskaya travaillait pour un hebdomadaire d'investigation, Novaya Gazeta, un magazine non officiel dans le collimateur du pouvoir. Ses collègues racontent qu'elle avait reçu des menaces.
C'était des menaces téléphoniques, des menaces plupart anonymes et il n'y a pas de traces de cette personne qui sont de l'autre côté de la ligne. On disait, si tu écris telle ou telle chose, tu dois penser 2-3 fois avant d'écrire. Des menaces qui ont pour le but de garder cette personne dans la vigilance constante et dans la nervosité pour intimider une personne.
Après l'assassinat d'Anna, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta est prêt à jeter l'éponge. Il veut arrêter, renoncer, fermer le journal. Les amis de Poutine ont mis la main sur toute la presse, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux. Novaya Gazeta est le dernier rempart. Il n'a jamais été aussi fragile. Mais ce sont ces journalistes qui le convainquent qu'il faut continuer.
Notre journal a déclaré qu'après la mort d'Anna Politkovskaya, que les journalistes de Novaya Gazeta continueront à travailler sur ces sujets-là. Les thèmes sur lesquels elle travaillait, Caucase, Tchétchénie, corruption.
Les obsèques d'Anna Politkovskaya ont lieu 3 jours après, suivies par des milliers de personnes. Et le Kremlin? Qu'est-ce qu'il a à dire, le Kremlin, sur cet assassinat? Eh ben, rien. Ничего. Le lendemain du crime, on pose la question au porte-parole de la présidence lors de sa conférence de presse quotidienne.
Que pensez-vous de la mort d'Anna Politkovskaya? Rien. Ça n'est pas à l'ordre du jour.
Vladimir Poutine met 3 jours avant de s'exprimer.
Quel que soit l'auteur de ce crime et ses motivations, nous devons déclarer que c'est un crime horrible et cruel. Bien sûr, il ne doit pas rester impuni. Mais je dois dire aussi que les publications de cette journaliste avaient une influence insignifiante sur l'opinion publique.
Autrement dit, pourquoi aurions-nous fait assassiner quelqu'un qui n'avait aucune importance? Sauf que c'est faiblard comme argument. Et surtout, c'est un mensonge. Anna Politkovskaya dérangeait beaucoup plus que ne le dit Vladimir Poutine. Un exemple. 7 mois avant d'être exécutée, Anna Politkovskaya publie un article sur une affaire incroyable. Dans plusieurs écoles de Tchétchénie, des élèves sont frappés d'une maladie étrange. Alors elle va sur place, à Tchelkovskaya, et elle se rend à l'hôpital. Et là, elle tombe sur des dizaines et des dizaines d'élèves agités de convulsions qui se tordent dans tous les sens, dont le visage passe par toutes les couleurs. Une horreur. Et elle interviewe le docteur Rabanov.
Je suis content de vous voir. On est complètement oubliés ici. Tous ces signes manifestés par autant d'enfants, c'est pas de l'hystérie. Ils disent que c'est de l'hystérie, ils disent qu'ils simulent, mais c'est pas vrai. Ils ont été empoisonnés. Empoisonnés, vous entendez? Alors pourquoi? Par qui, ça, j'en sais rien.
Voilà ce qu'il y avait dans son article. Elle raconte qu'ensuite, il y a eu une commission d'enquête qui a publié un rapport, mais que 2 jours plus tard, ce rapport a disparu. Sauf qu'elle, elle l'a retrouvé et elle en publie un extrait qui dit en gros que c'est un empoisonnement, c'est certain. Avec quelle substance? Les rapporteurs demandent qu'on fasse des analyses. Anna Politkovskaya raconte tout ça dans l'article qu'elle publie 6 mois avant d'être assassinée. Alors oui, elle dérangeait le pouvoir, parce qu'à travers cet article, on comprenait assez clairement que les Russes empoisonnaient des petites Tchétchènes. Alors non, monsieur Poutine, son influence n'était pas insignifiante, comme vous dites. Ces dernières années, Anna Politkovskaya allait plus de 20 fois par an en reportage en Tchétchénie. Et elle disait elle-même d'ailleurs qu'elle ne racontait pas tout de ce qu'elle voyait là-bas.
Ça fait longtemps que je ne raconte plus à mes amis ce qui se passe en Tchétchénie. J'ai cessé de le faire au début de la Deuxième Guerre déjà, lorsque je revenais de mon premier voyage et que j'essayais d'en parler. Notre société rejette ces informations. C'est un énorme problème, même parmi mes proches.
Déjà il y a 2 ans, Anna avait failli y laisser la peau. C'était en 2004. Il y avait eu une prise d'otage dans une école à Beslan, en Ossétie. Des séparatistes tchétchènes avaient investi l'école, retenant prisonniers plus de 1000 gamins. L'armée russe était intervenue, elle avait signé un carnage. 334 morts, dont 186 enfants. Anna voulait absolument y aller, elle voulait enquêter sur ce carnage. Le Kremlin lui avait fait passer le message.
Nous vous déconseillons d'aller là-bas. Votre sécurité n'est pas assurée.
Elle y était allée quand même. Et dans l'avion, naïvement, elle avait bu un thé. Et avant même l'atterrissage, elle s'était sentie mal. On l'avait empoisonnée. Elle est tombée dans le coma. Empoisonnée par quoi? Par quel produit? Oh ça, on ne le saura jamais. Elle avait fait une prise de sang, mais figurez-vous que le laboratoire de la police a détruit l'échantillon par erreur. Hein? C'est ballot. Heureusement, elle s'en est sortie. Mais un an plus tôt, son rédacteur en chef, Yuri Tchekotchikine, n'avait pas eu cette chance. Lui aussi, il avait bu de la potion magique. Mais lui, il en est mort. Mort naturelle, selon la justice russe. Naturelle. Tu parles. Il est de notoriété publique que le FSB, le nouveau KGB, utilise le poison comme une arme. Et d'ailleurs, avant son assassinat, Anna s'étonnait régulièrement d'être toujours en vie.
Vous savez, oui, je comprends le sens de votre question, pourquoi tu es encore vivant?
Je comprends le sens de votre question. Pourquoi suis-je encore en vie? Très franchement, c'est presque un miracle. Oui, un miracle. Quelqu'un tient pour l'instant à me garder sur cette terre. C'est vraiment un miracle.
Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir une enquête sur l'assassinat de Madame Politkovskaya? Oui. Et elle sera dirigée par le procureur général de Russie, en personne, Yuri Tchaïka. Alors voyons si la justice est libre en Russie. Tout à l'heure, je débrieferai cette histoire avec Anne Niva, reporter de guerre, prix Albert Londres, qui a passé beaucoup de temps en Tchétchénie pendant la guerre et qui connaissait Anna Politkovskaya. Et avec Johan Beer, qui suit la région pour Reporters sans frontières. Il me reste à vous raconter l'enquête, car il va y avoir une enquête et elle est placée sous la direction du procureur général de Russie. L'assassinat d'Anna a été filmé. Il y avait une caméra placée en hauteur dans le hall de son immeuble. Malheureusement, le tueur portait une casquette de baseball, on ne voit pas bien son visage. En revanche, on le voit qui rejoint un complice et on devine un troisième homme qui aurait pu faire le guet. L'arme, vous vous en souvenez, le tueur l'a laissée sur place, par terre. C'est un pistolet Marakov, qui équipe l'armée russe. Et l'armée neuve, elle n'a servi qu'une seule fois pour tuer Anna. Elle est intraçable, bien sûr, et le numéro de série du silencieux a été limé. L'enquête s'oriente assez vite vers une piste tchétchène. Trois hommes qui se ressemblent, les enquêteurs pensent à des frères. Et les Tchétchènes opèrent souvent en fratrie. C'est un peu leur créneau, ce genre d'exécution. Reste à savoir qui les a payés, parce qu'en général, ces types-là ne font pas ça pour rien. Après quoi, les mois passent et rien ne semble avancer. Et puis, le 27 août 2007, 11 mois après l'assassinat, Vladimir Poutine annonce l'arrestation de 10 suspects. Et il le fait lui-même, façon Poutine, face caméra, avec à sa gauche le procureur général et à sa droite le directeur des services secrets.
Nous tenons les exécutants, mais aussi les organisateurs.
Ça alors? Bon, en vérité, personne n'y croit. Poutine d'ailleurs est allé un peu vite, et peut-être qu'il a fait exprès pour bien planter l'enquête. Parce que sur les 10 suspects arrêtés, 2 sont libérés tout de suite. Et un troisième, ça c'est embêtant, est un agent des services secrets, un officier du FSB. Moyennant quoi le FSB, à partir de ce moment-là, va s'acharner à brouiller l'enquête. Quelques jours plus tard, le procureur Tchaïka, pour détourner l'attention, annonce que le commanditaire est identifié. Mais que c'est embêtant, il est réfugié à l'étranger. Un peu plus tard, il ajoute
« Celui qui a ordonné l'assassinat est un homme puissant, qui est recherché par la Russie, c'est un corrupteur et c'est un corrompu. »
Et là, tout le monde voit de qui il parle. Boris Berezovsky, le milliardaire qui vit à Londres et que Poutine déteste. Alors il lui colle le meurtre d'Anna Politkovskaya, au prétexte qu'il a la réputation d'être proche de la mafia tchétchène. Et puis, en octobre 2008, le procureur annonce, triomphalement, que l'enquête est terminée et que 4 personnes vont être déférées devant un tribunal militaire. Pourquoi militaire? Parce que parmi les 4, il y a bien un officier des services secrets. C'est lui qui aurait fourni l'adresse de la journaliste. Comme prévu, les 2 autres sont des frères, des Tchétchènes. Ils auraient surveillé Anna dans les jours qui précèdent. Le 4e est un ancien policier russe, mais aucun d'entre eux n'est le tireur. Le tireur, selon le procureur Tchaïka, se serait lui aussi réfugié à l'étranger. C'est donc un procès sans tueur et sans commanditaire qui s'ouvre le 17 novembre 2008. Et aussi un procès sans espoir. Comme le dit le propre fils d'Anna Politkovskaya, dès le premier jour.
Je n'ai absolument aucun espoir qu'au cours de ce procès, le nom du commanditaire soit révélé. Les gens qui sont jugés là n'ont pas de lien direct avec lui. C'est un groupe criminel qui a fait ça pour de l'argent, c'est tout.
Dès l'ouverture, les services secrets du FSB réclament le huis clos, c'est-à-dire un procès sans presse et sans public.
Vous comprenez, on va évoquer des documents confidentiels, et patati et patata. Le procureur refuse. Le juge tergiverse, et puis il finit par trancher, en faveur d'un procès public. Et puis deux jours après, il fait marche arrière, et il instaure le huis clos.
Ce sont des jurés qui me l'ont demandé. Ils ont reçu des pressions.
Sauf que le même jour, l'un des jurés va dire à la radio que c'est faux, que personne ne s'est plaint. Et dans la foulée, 19 des 20 jurés écrivent au juge pour protester. On n'a jamais demandé le huis clos, jamais. Et après, le président annonce que le procès est suspendu pendant 2 semaines, au motif que 2 avocats des prévenus sont indisponibles. Mais l'un de ces avocats vient dire « Pas du tout, je suis disponible !» Il est bien parti, ce procès. Et quand les audiences reprennent, les obstacles s'accumulent. Par exemple, Anna Politkovskaya était sur écoute, à l'initiative des services secrets du FSB. Le tribunal réclame d'entendre les enregistrements. Réponse : impossible. Sûreté de l'État. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir la transcription de ces écoutes ? Oui, bien sûr. Les services secrets remettent la transcription des écoutes de la journaliste. Oh, c'est idiot, ça s'arrête à 14h le jour du meurtre, 2 heures avant l'assassinat.
Et le reste ?
Demande un juré.
Problème technique,
répond le représentant du FSB à la barre. Serait-il possible d'entendre certains agents du FSB ?
Niet, sûreté de l'État.
Voilà donc un procès qui est mal parti. Et là, on apprend de la bouche du procureur Tchaïka que ça y est, le tireur est identifié. Ah bon ? Et qui est-ce ? Il s'appellerait Roustam Makhmoudov. Et ça serait le frère des 2 Tchétchènes qui sont déjà dans le box des accusés. Eh bien, qu'on l'amène devant le tribunal.
Problème !
Répond le procureur.
Il a fui à l'étranger.
C'est bien la preuve qu'il s'agit d'un complot orchestré par des gens qui vivent à l'étranger pour discréditer les autorités de notre pays. Ah, on aurait tué Anna Politkovskaya pour discréditer la Russie. La théorie du complot. Les audiences se déroulant à huis clos, j'ai un peu de mal à vous raconter la suite, mais en revanche, je peux vous donner le verdict final. Il est assez étonnant. La justice russe est plus indépendante qu'on ne le croit. Ils sont tous acquittés, figurez-vous, par manque de preuves. Le procureur général se sent humilié et dans la foulée, la Cour suprême casse le verdict d'acquittement. Il y aura donc un autre procès. Mais entre-temps, ça bouge dans l'enquête. Au cours d'une conférence de presse, le procureur Tchaïka annonce
« Nous avons arrêté Roustam Makhmoudov. Il a été interpellé en Tchétchénie, de nouveaux éléments sont apparus, nous allons résoudre cette affaire. »
Normalement, le procès devait s'ouvrir dans la foulée. Mais évidemment, avec ces nouveaux éléments, il faut reprendre l'enquête et donc reporter le procès. Quatre ans. Cette nouvelle enquête va durer 4 ans. Et elle est marquée par l'entrée en scène d'un nouveau protagoniste, un certain Dmitri Pavlyuchenkov. Qui n'est pas n'importe qui, c'est le chef de la 4e section de la police de Moscou. Il est en charge des filatures. Au premier procès, il était l'un des principaux témoins à charge de l'accusation. Sauf que chez lui, on a retrouvé des photos de la journaliste. Il reconnaît qu'il l'a fait suivre pendant des mois et qu'il a fait ça pour de l'argent.
Nous l'avons suivie pendant plusieurs mois. Elle était dans ses pensées, elle avait l'air préoccupée. Son père venait de mourir, sa fille était enceinte. Je ne pense pas qu'elle se soit aperçue qu'on la suivait. Elle avait d'autres préoccupations que de regarder par-dessus son épaule.
Mais il a fait mieux que ça, ce policier ripoux. Il avoue que c'est lui qui a fourni l'arme, le pistolet Makarov. On est peut-être en train de s'approcher de la vérité. Enfin. Mais ira-t-on jusqu'à s'approcher du vrai commanditaire de cet assassinat ? Ça, c'est moins sûr. Parce que dans l'esprit des proches d'Anna, ça devient très clair. Celui qui a donné l'ordre de l'abattre, c'est Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, le pantin sanguinaire mis en place par Moscou, qui a toujours considéré qu'il avait une sorte de permis de tuer, qui il voulait, qui le dérangeait, qui il n'aimait pas. Il avait d'ailleurs dit à Anna Politkovskaya elle-même, dans une interview,
« Mes ennemis, je les tue !»
Elle n'avait pas compris qu'elle était la prochaine sur la liste. Et c'est là qu'on se souvient qu'elle a été assassinée le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, comme un cadeau. Bon anniversaire, monsieur Poutine. Mais là, je m'égare parce que tout ça, c'est ce que pense la famille, c'est ce que pensent les journalistes de Novaya Gazeta, mais ça n'est pas ce que pense le procureur. Donc il ne faut pas rêver, l'enquête ne remontera pas jusqu'à l'innommable Kadyrov. Et d'ailleurs, le flic Ripou, qui vient d'avouer qu'il a fait filocher Anna pendant des mois, qu'il a fourni l'arme au tueur, désigne un autre commanditaire. Et d'après vous? Eh bien, Boris Berezovsky, le milliardaire réfugié à Londres, l'ennemi personnel de Poutine. C'est lui qui a tiré les ficelles de toute cette horrible affaire. Et pourquoi? Pour discréditer la Russie, pour que tout le monde pense que le Kremlin fait assassiner des journalistes. De toute façon, Berezovsky, on peut pas aller lui chercher des noises. Il est mort. C'est commode, hein, les morts. On peut leur coller tous les malheurs du monde. Voilà donc la vérité officielle. Et bien sûr, c'est cette vérité qui va triompher au cours du nouveau procès qui s'ouvre en mai 2014, 8 ans après l'assassinat d'Anna Politkovskaya, et qui cette fois se conclut par des condamnations. C'est l'essentiel. La justice russe a trouvé et condamné les assassins. Roustam Makhmoudov, le tireur, est condamné à la prison à vie. Même peine pour son oncle qui aurait été l'organisateur. Ses deux frères, les complices, écopent de 12 et 14 ans de prison. L'ancien policier qui avait donné l'adresse d'Anna prend 20 ans. Et le policier de Moscou qui avait filoché Anna pendant des mois et fourni l'arme, écope de 11 ans de camp spécial. Et ça s'arrête là. Vous me direz, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Il est probable que tous ces gens-là sont les exécutants du meurtre de la journaliste. C'est déjà bien qu'ils soient condamnés, mais qui a donné l'ordre? Qui a payé ces Tchétchènes? Ça, on ne le saura jamais avec certitude. Le fils d'Anna, en tout cas, Ilya Politkovsky, est très clair devant les caméras, juste après le verdict.
Aujourd'hui comme hier, je considère que ces gens sont impliqués dans le meurtre. Mais il est important d'ajouter quelque chose, il n'y avait pas le commanditaire dans la salle d'audience. Donc, dire que je suis satisfait du verdict d'aujourd'hui est prématuré. Je ne serai satisfait que quand le verdict concernera le commanditaire.
La justice russe s'est arrêtée en chemin. Au siège de Novaya Gazeta, le bureau d'Anna Politkovskaya est resté tel quel, comme une sorte de petit musée. Il y a sur le bureau un palmier en pot, et tous les jours, il continue de pousser.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.